He is also currently the chargé de recherche première classe, section 40 de CNRS. And her published list is quite extensive, so I'll only hit a couple of things here. You may know her book, Le Roman Conjugal, Chronique de la vie conjugale à l'époque de la Révolution et de l'Empire, which appeared in 2011. And in 2010, Le Bon Mari, une histoire politique des hommes et des femmes à l'époque révolutionnaire, appeared as well. Today, her paper is entitled Marriage Under the Code Napoleon, a New Social Problem.
Thank you, and I apologize because I will speak in French. I think it's better for all of you. And I apologize too. Is it okay with the micro? Yeah. I apologize too because I changed my title. So it happens all the time with me, I mean. Okay, so... Je vous propose comme titre « Les comédies du mariage d'amour arrangé entre 1799 et 1824 ». Alors, je suis bien contente, bien consciente, ça commence très mal, si je ne sais même plus parler français, en vous proposant ce titre, donc, d'être apparemment très loin du sujet que je vous avais d'abord proposé et dont le titre était « The Marriage After the Code Napoléon Social Problem ». Je serai à la fois plus précise et plus incertaine. Je serai plus précise puisque je traiterai non pas du mariage en général, mais de cette notion apparemment contradictoire, du moins pour nous, de mariage d'amour arrangé. Je serai aussi plus incertaine puisque je n'ai pas encore les moyens de savoir si c'est une question sociale ou pas à cette époque. Le fait est qu'une question sociale est en train d'émerger. C'est même la raison pour laquelle je me suis intéressée à cette période, les années 1800-1825, qui précèdent l'émergence du saint-simonisme et du fouriérisme organisé, en tout cas, et qui précèdent également la publication de livres aussi importants que ceux de George Sand, comme Indiana, contre le mariage arrangé. C'est-à-dire, on est dans une période avant des mouvements politiques, littéraires, qui ont fait du mariage une cible de leur critique contre l'autorité maritale dans la famille et le lieu originel de la corruption des mœurs, notamment des mœurs sexuelles des Français. Mais entre 1799 et 1824, et a fortiori dans le corpus littéraire que j'ai choisi, celui des pièces de théâtre qui portent sur le mariage, nous n'en sommes pas encore là. Car avec les comédies du mariage arrangé, la question n'est pas de vanter les mérites de l'égalité entre les époux, elle est totalement absente. La question est de proposer un nouveau modèle de mariage à mi-chemin entre le mariage arrangé selon Rousseau et le mariage de pur amour selon George Sand. Alors ces comédies du mariage arrangé critiquent le mariage arrangé d'autrefois, pardon, qu'on appelle le mariage à la mode de France, c'est-à-dire le mariage dans l'indifférence. Il vante les mérites du mariage d'amour, ce sera ma deuxième partie, tout en proposant comme idéal un moyen terme qui ménage les volontés individuelles des parents et des enfants. Alors, le corpus. Dans ces années, entre l'arrivée au pouvoir de Napoléon et la mort de Louis XVIII, nous avons un nombre incalculable de pièces de théâtre, de vaudevilles, de pantomimes qui paraissent avec, dans le titre, les mots qui relèvent du champ lexical du mariage. On y trouve des maris à bonne fortune, des maris instituteurs, des maris complaisants, des maris intrigués, des maris supposés et même des maris sans le savoir. On y trouve aussi des mariages secrets, qui sont plutôt en Écosse, des mariages par imprudence ou même des mariages à la hussarde. Alors, la liste n'est pas close. J'en ai dénombré pour le moment une quarantaine, dont j'ai étudié pour le moment une moitié. Alors, c'est ce qu'on pourrait considérer comme un genre littéraire, puisqu'il y a autant de pièces sur cette thématique, et on pourrait considérer également, ou l'appeler, une matrimoniomanie, comme Villaumet, enfin, comme une pièce de théâtre ridiculisant Villaumet s'appelait. Elle s'appelait la Mariez-vous ou la Matrimonio-manie. Et le fait est que j'ai l'impression qu'on a affaire effectivement à une manie matrimoniale. C'est un genre littéraire, donc, mais c'est aussi, je pense, une spécificité française, car je n'ai pas trouvé d'équivalent dans le répertoire anglo-saxon d'un tel foisonnement de pièces sur le sujet à la même époque. Alors, toutes ces pièces ont été jouées dans des théâtres parisiens avec des succès variables qui vont d'une poignée de représentations à plusieurs centaines. Celles que j'ai choisi de conserver sont toutes l'objet d'une publication. Ce qui veut dire que le texte a circulé, que les pièces ont peut-être été jouées sur des théâtres privés, comme il en existait souvent dans les demeures de la bourgeoisie, et ce, jusque dans les plus petites bourgades, jusque chez Georges Sand. Alors, le mariage arrangé. Le mariage arrangé en France, qu'on appelle aussi le mariage de convenance, est globalement un impensé de la recherche historique. On compte sur les doigts d'une main les travaux depuis les années 90 qui ont pris cette question du mariage arrangé au sérieux. On a plutôt étudié l'émergence de son contre-modèle, à savoir ce qu'on appelle le mariage amoureux ou le companionate marriage, qui est défini, comme vous le savez, comme un mariage qui repose sur l'affection mutuelle et la volonté individuelle, et, vous le savez, dont on situe l'émergence au XVIIIe siècle, du moins comme idéal. Alors, comme l'a montré Denise Davidson, le mariage arrangé n'est pas nécessairement un mariage où il n'y a pas d'attachement. Mais les sentiments sont censés y être une conséquence et non pas une cause du mariage. Cette union s'est formée sur la base d'une négociation souvent virtuelle, par correspondance, en tout cas avec un intermédiaire, et une négociation généralement tenue secrète entre deux familles qui désirent s'allier. À partir du Code civil de 1804, le mariage nécessite le consentement mutuel des parents et des enfants. Nul ne peut marier un mineur sans son consentement, et nul ne peut se marier sans le consentement de ses tuteurs légaux, du moins jusqu'à l'âge de la majorité, 25 ans pour les garçons, 21 ans pour les filles. De ce fait, l'arrangement qui, à l'origine, désigne le pacte entre deux familles qui désirent unir leurs rejetons, concerne désormais aussi cet accord qui doit réunir, à l'intérieur d'une même famille, le consentement des parents et le consentement des enfants. Et c'est ce double consentement entre les familles et entre les générations qui forme l'enjeu de ces comédies du mariage d'amour arrangé. Alors, comme idéal, le mariage arrangé a eu ses défenseurs, pas des moindres. Rousseau, dans La Nouvelle Héloïse, 1751, en vante les mérites à travers deux couples, celui de Monsieur et Madame d'Orbe, qui s'aiment d'un sentiment, je cite, « que la sagesse autorise » et que la raison dirige, sans pour autant brûler d'un feu dévorant. Mais surtout, bien sûr, vous connaissez le couple devenu célèbre de Julie et de Monsieur de Volmar. Quand Julie se marie pour obéir à son père, en renonçant à l'amour, elle écrit à son ancien amant que cet amour n'est pas nécessaire pour former un heureux mariage. C'est que, ajoute Julie, je cite, « on ne s'épouse point pour penser uniquement l'un à l'autre, mais pour remplir conjointement les devoirs de la vie civile, pour gouverner prudemment la maison et pour bien élever ses enfants. » À lire les comédies du mariage arrangé entre 1799 et 1824, l'union organisée par les familles sans le consentement des enfants, cette union à la Rousseau, est devenue une norme qu'il faut dénoncer. On tourne en dérision l'égoïsme, l'autoritarisme des pères, on se moque de l'indifférence et on se désole de l'ennui qui règne dans les chambres désertées. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans la pièce « Le mari supposé », 1806, deux pères qui étaient, je cite, « divisés d'intérêt par un procès fâcheux » ont marié leurs enfants pour confondre leurs droits. Ils ont marié un jeune garçon de 14 ans et une jeune fille de 10 ans. Alors évidemment, le choix de ces deux âges contribue à renforcer le ridicule d'une situation qui est présentée comme étant d'un autre temps. On a aussi une dénonciation de l'outrance de la volonté des pères. Elle ne consiste pas seulement dans l'union forcée de deux enfants trop jeunes, elle prétend également s'appliquer aux sentiments. Par exemple, dans le mariage par imprudence, le père fait de l'amour une affaire de bonne volonté. Il dit « Je lui dirai de l'aimer et elle l'aimera ». Le mariage arrangé par les parents produit sûrement, si on entend Rousseau, des égards, du respect, de la complaisance, qui sont des conditions de la durée. Mais, dans les pièces, il n'offre pas le bonheur. Dans les projets de mariage de 1817, Rosaline est une jeune veuve qui a déjà connu le mariage. Et elle dit « Je sais par expérience ce qu'est l'hymen, quand on cède à l'obéissance, quand on estime, comme on dit, son mari. L'estime, l'amitié, les prévenances, rien de tout cela ne tient lieu d'amour. » Fin de la citation. Dans une autre pièce qui s'appelle « Le mari supposé », Hortense refuse l'époux que son père lui a choisi et elle dit « Vous me verriez bientôt triste, oppressée, mourir de regrets et d'ennui si, par vos soins, j'étais forcée d'épouser mon mari. » Sans amour, dans ces pièces, le mariage rime avec esclavage. Mais, plus grave encore, les époux font chambre à part. C'est dans ces pièces l'un des signes le plus évident de l'échec du mariage. Deux exemples. Dans Adolphe et Clara, 1799, le mari finit par glisser à l'oreille de son interlocuteur que son épouse, Clara, a fini par vouloir un appartement séparé. Et dans Le mari intrigué, un autre mari se plaint qu'après 3 mois de mariage, un double appartement le sépare déjà de son épouse. Et il dit « Cet usage révoltant, fondé par la richesse, dégrade le cœur, étouffe la tendresse et fait le tombeau de l'amour. » Donc toutes ces piques adressées à des usages que l'on considère comme d'un autre temps, des usages passéistes, viennent rejoindre d'autres moqueries dirigées contre les couples dans notre temps, ceux qui n'osent pas afficher leur amour de peur du ridicule. Dans une pièce qui s'appelle « Le mari juge et parti », Dorval, qui est le mari d'une Julie, décide qu'il serait temps de braver les sceaux en osant enfin aimer sa femme après, dit-il, avoir vécu, je le cite, « en bons époux à la mode de France ». À la mode de France, c'est-à-dire, je cite, « dans la plus parfaite indifférence ». Dans « Le mari à bonne fortune », 1824, c'est une mère qui reproche à son fils de suivre cette mode parce qu'il délaisse son épouse en allant seul dans les bals et au spectacle. Alors, voilà pour le mariage arrangé, on lui a réglé son compte. Qu'en est-il du mariage d'amour dans ces comédies? Alors, il est défini dans une pièce qui s'appelle « Le mari intrigué » de 1806. Un jeune homme qui s'est marié depuis peu se lamente car il ne rencontre pas chez son épouse autre chose que de la froideur et de l'éloignement. Et il décrit son idéal du mariage amoureux. Il est fait d'harmonie, de confiance, bon, comme chez Rousseau, de langage enchanteur, et surtout, dit-il, on s'y croit deux lorsque l'on est seul, et seul quand on est deux. Alors on y retrouve typiquement cette idée d'une fusion des cœurs et des corps qui caractérise le mariage selon la doctrine catholique, mais aussi, je pourrais ajouter, selon la loi électorale conjugaliste sur laquelle j'avais travaillé il y a quelques années. Alors, pour décrire ce mariage d'amour, on a en général 2 scénarios. On a le scénario du coup de foudre, qui me rappelle Villaume, et le scénario de la mise à l'épreuve de l'amour des jeunes gens. Alors, du côté du coup de foudre, il est érigé en modèle de choix du conjoint. Donc, on a des échos avec ce que dit Andrea. Par exemple, dans cette pièce dont je vous ai parlé, qui s'appelle « La matrimoniomanie », et qui se moque de Villaume, on décrit donc le coup de foudre. C'est une attraction simultanée qui va mener à la félicité ineffable, et c'est une commotion, pour ainsi dire, électrique, dont l'effet, je cite, finit par conduire un couple au comble de la satisfaction intérieure. On a d'autres citations pour décrire ce qu'est ce coup de foudre. Rosaline, dans Les projets de mariage, est une jeune veuve. Elle a aperçu dans un bal à Florence, alors qu'elle était perdue au milieu de la foule, un jeune homme qui l'a protégée alors qu'il ne la connaissait pas et dont elle a gardé un souvenir ému. C'est avec lui, qu'elle désire se remarier. « Chimère !» s'exclame son oncle. « On ne peut pas s'attacher à un homme qui vous a parlé 3 heures, dont on ne connaît ni le nom ni les avantages personnels. Voilà bien les femmes, elles n'ont que des idées romanesques. » Et on retrouve cette même idée dans « Le mari complaisant ». Une jeune femme a aperçu la veille au concert un jeune homme charmant et son tuteur s'exclame « Voilà les femmes, elles voient un homme qui leur plaît, se prennent aussitôt d'une belle passion pour lui, sans connaître seulement ni son nom ni ses mœurs. Quelle légèreté !» Dans un cas comme dans l'autre, ce sont bien ces chimères qui deviendront de beaux et bons mariages avec l'aval du parent, bientôt ramené, je vous rassure, à de plus justes opinions. Donc ça, c'est du côté du coup de foudre, du côté de la mise à l'épreuve. Dans ces mariages arrangés, il y a un fort risque de confusion entre l'attrait pour un beau nom et la profondeur des sentiments. Aussi, on désire vérifier que, dans le cadre de l'arrangement, puisse exister un amour authentique. Dans le mari supposé, un époux, celui qui avait été marié à 14 ans, vous vous souvenez, revient après 10 ans d'absence. Il ne révèle pas son identité, il est trop changé pour être reconnu par sa femme qui a grandi entre-temps, et il se fait passer pour un jeune peintre, Florbel. Il s'installe dans le voisinage de la maison paternelle de sa jeune épouse, puisqu'il s'est marié, mais cette fois, l'anonymat lui permet d'obtenir le cœur de la jeune fille, de s'assurer d'elle, comme il dit, et non pas de se contenter de venir cueillir les fruits auquel le mariage lui avait donné légalement droit. Et Hortense, la jeune épousée qui a grandi, n'est pas en reste, puisqu'elle décide, elle aussi, de tester les sentiments de ce jeune homme, alors, dont elle ne sait pas qu'il est son époux, mais par toute une série de stratagèmes. Toujours pour dire que, de part et d'autre, du côté de l'homme comme de la femme, dans une symétrie de sentiments et d'attentes qui, finalement, n'a rien à envier à notre modernité, il s'agit de vérifier l'authenticité de l'amour de l'autre. Alors, dernière partie, le mariage d'amour arrangé, qu'est-ce que c'est ? Bon, vous voyez que le mariage arrangé ne doit pas être obtenu par la seule obéissance. Mais vous voyez aussi que le mariage d'amour ne doit pas non plus mener à la mésalliance. Il est dans ce cas qualifié de pure folie. Donc, à mi-chemin entre les deux modèles se situe ce qu'on peut appeler le mariage d'amour arrangé. Et il consiste, pour un cœur clairvoyant, à opérer un choix qui agrée, comme par hasard, les exigences homogamiques, discrètes mais fortes, de la famille. Alors, le choix d'un cœur ingénument clairvoyant, c'est quoi ? L'enjeu des pièces, en fait, consiste à prouver qu'on est prêt à aimer au risque de la mésalliance, d'accord ? Puisqu'on ne le connaît pas, on l'a rencontré par hasard, mais on l'aime et on veut l'épouser. Donc, on prend le risque de la mésalliance. Mais évidemment, tout se passe toujours comme si les jeunes gens, par une espèce de prescience matrimoniale, connaissaient leurs limites suffisamment pour agir en conformité avec les attentes de leur classe sociale. Et du coup, tel beau jeune homme, plein de prestance, rencontré dans ce bal à Florence, dont on ignore jusqu'au nom, est un fils de famille honorable et un officier. Le jeune voisin installé récemment, qui, à force de bonne conduite, a séduit la jeune femme mariée à 10 ans, fait savoir, une fois qu'il s'est assuré de l'authenticité des sentiments de la belle, qu'il est son mari disparu, à laquelle son père l'avait unie lorsqu'elle avait donc 10 ans. Donc à chaque fois, ça rencontre finalement toujours les vœux des parents. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit simplement de mariages amoureux, comme il y a des mariages amoureux aujourd'hui dans nos sociétés libérales, et dont on sait qu'ils confirment en général une homogamie qui n'ose pas dire son nom. Mais, dans ces pièces, l'homogamie ne suffit pas à rendre un mariage heureux. Il y faut toujours l'accord des parents, et bien sûr, cela ne revient pas tout à fait au même. Les jeunes gens semblent libres, et semblent agir comme s'ils étaient libres. Mais la figure parentale reste dominante. Elle est toujours présentée comme bienveillante, voire utile, parce que de bons conseils. Par exemple, le père d'Adèle, qui avait pour projet de la marier à un jeune homme de 45 ans, donc vous entendez l'ironie, ne voudra pas, devant sa répugnance invincible, c'est la servante, hein, il y a tout un jeu autour des servantes qui est très intéressant, qui en savent toujours plus que les jeunes filles trop prudes. Le père d'Adèle, donc, qui avait pour projet de la marier, ne voudra pas, s'il est face à la répugnance invincible de sa fille, forcer son inclination. Donc on voit hein, qu'il s'agit pour les parents de consentir et non pas d'imposer. Et les parents sont présents dans toutes les pièces où sont mariés des jeunes gens mineurs. Leur rôle est de valider l'élan amoureux en s'assurant qu'il n'est pas qu'une idée romanesque, mais repose aussi sur des considérations de nom et de fortune. Même dans la matrimoniomanie, qui décrit cette agence matrimoniale de Villaume, et où on pourrait penser que le lieu se prête à une complète autonomie des jeunes gens, puisqu'ils viennent pour se marier, hein, ils viennent proposer leur candidature. Eh bien, même dans la matrimoniomanie, le maître de l'agence, donc Guillaume, prend soin de toujours vérifier qu'ils viennent tous et toutes avec le consentement de leurs parents. Et ce consentement parental est si important qu'il est présenté comme indispensable, même quand les mariés s'en sont déjà passés. Dans Jenny ou le mariage secret, les deux époux se sont mariés en secret, comme le titre l'indique, mais ils ne trouvent leur bonheur et la prospérité qu'en obtenant, à la fin de la pièce, la bénédiction du père de la mariée. Et dans Le mari sans le savoir, un homme s'est donc laissé marier avec celle qu'il aimait, mais en ignorant qu'il signait un acte de mariage. Une fois l'union légalisée, il aurait pu se passer de l'approbation des parents, puisqu'il est marié. Mais il n'en est rien. Il faut, lui dit son frère qui a manigancé tout ce faux mariage, enfin ce mariage sans le savoir, il faut, pour assurer ton bonheur, que la famille entière vienne approuver le choix qu'a fait ton cœur. Alors, en conclusion, que disent ces comédies hein, qui puissent servir pour comprendre la réalité historique? Alors, évidemment, ces comédies ne reflètent pas comme un miroir la réalité sociale. Le coup de foudre qui tombe sur un fils de famille dans la foule à Florence, quand on connaît la surveillance dont les filles sont l'objet, risque peu d'arriver. Et de même, on voit mal un fiancé ou un homme qu'on a marié à 14 ans revenir au bout de 10 ans, déguisé en jeune peintre, s'installer dans le voisinage pour s'assurer des mœurs et des sentiments de celle qu'on lui a promise et pour parvenir à la séduire. Mais ces mises en scène, si elles ne prétendent pas décrire la société telle qu'elle est, disent deux vérités, deux morales du mariage. D'abord, l'importance de ne pas forcer le consentement des enfants, car il n'y a pas de mariage heureux sans amour, contrairement donc à ce que déclarait Julie dans La Nouvelle Héloïse. Donc on est bien plutôt dans un avant-Sand que dans un après-Rousseau, s'il fallait établir des continuités. La deuxième chose, c'est l'importance d'obtenir le consentement des parents, qui ne sont jamais présentés comme des tyrans, mais toujours comme mus par une bonne intention et quelques préjugés finalement aisément surmontables. Ils sont, ces parents, en position de garde-fous, des garde-fous homogamiques, hein, nécessaires pour encadrer les élans romanesques des jeunes gens. Alors, là où le mariage de la Julie de Rousseau est négocié entre son père et son futur époux, chacun représentant la famille, eh bien, le mariage d'amour arrangé de ces comédies est aussi le fruit d'un arrangement entre un parent et son enfant. Et donc, par là, on voit que la famille se fissure, on pourrait dire s'individualise, puisqu'on a désormais deux individualités qui peuvent s'y affronter en son sein. Et certes, l'affrontement reste toujours à fleuret moucheté, c'est-à-dire qu'il n'aboutit jamais au conflit dans ces pièces. C'est sa potentialité, c'est la potentialité de l'affrontement qui est suspendue jusqu'à la fin, qui fait le ressort et l'enjeu principal de ces comédies du mariage arrangé. Alors, il est possible qu'il faille considérer cet arrangement comme finalement l'objet de cette question sociale qui est en train d'émerger, qui émergera vraiment dans les années 1830. Car dans la famille patriarcale, la première autorité à relativiser, à déconstruire, est plutôt celle du père que celle du mari. Ne serait-ce que parce qu'elle pèse, cette autorité paternelle, plus, ou plutôt autant sur les hommes que sur les femmes, et que donc elle pèse sur deux fois plus de personnes, dont la moitié a collectivement les moyens de défendre son droit à l'autonomie, et ce, même dans le mariage. Et donc, c'est sans doute dans cet arrangement entre deux volontés individuelles, entre celle des parents et celle des époux, que, c'est en tout cas la question que je vous amène, que réside la nouveauté et peut-être un des éléments de la genèse du mariage comme question sociale. Je vous remercie.